Fréquencier, info locale, déconfinement.
Alors, Éric Tricot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cadre de santé hygiéniste au centre hospitalier du Mans, c'est bien ça?
Tout à fait, oui. Je m'occupe de tout ce qui est problème de risque infectieux avec toute une équipe sur le centre hospitalier du Mans.
Alors, en quoi consiste concrètement le boulot de cadre de santé hygiéniste?
Alors, cadre de santé hygiéniste, c'est un peu le même travail qu'infirmière et hygiéniste. C'est apporter de l'accompagnement, du conseil, de la formation aux autres professionnels de santé et aux responsables des établissements sanitaires, médico-sociaux, mais aussi aux professionnels de santé libéraux, en termes de maîtrise du risque infectieux, c'est-à-dire en fait faire en sorte qu'on n'ait pas de transmission de microbes au cours des soins et faire en sorte que les patients, les résidents, les consultants ne puissent pas attraper d'infection qu'on appelle infection associée aux soins.
Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus précisément des masques donc qui sont liés à l'hygiène. Alors déjà, quelle est l'efficacité des masques en tissu, par exemple?
Alors, il y a différents types de masques à disposition de à la fois des professionnels de santé et de monsieur et madame tout le monde dans la vie de tous les jours. On distingue trois types de masques. Donc les fameux masques FFP2 qui sont plutôt des filtres respiratoires et qui sont réservés aux professionnels de santé pour des gestes de soins bien spécifiques, en particulier des gestes sur la sphère respiratoire, la sphère ORL. Et puis ensuite nous avons les fameux masques chirurgicaux dont on entend beaucoup parler et qu'on voit un petit peu partout, à la fois dans le monde de la santé mais aussi un petit peu dans la rue chez monsieur et madame tout le monde. Ou ce qu'on appelle aussi masques chirurgicaux, c'est égal à masque de soins. Ce sont des masques en papier. Et enfin, la troisième grande catégorie de masques, ce sont les masques en tissu, fabrication industrielle, soit fabrication par beaucoup de bénévoles qui se sont lancés dans cette fabrication, ou par fabrication de monsieur et madame tout le monde, vous, moi, nous pouvons fabriquer nos propres masques tissus. Seule chose qu'on recommande pour ces masques, c'est qu'ils répondent à une norme AFNOR, qui s'appelle la norme AFNOR SPEC, SPECS76-001.
Alors, à quoi servent concrètement les masques en tissu ou en papier?
Alors, les masques en papier, qu'on appelle masques chirurgicaux ou masques de soins, sont faits pour stopper la transmission des microbes qui se transmettent par les gouttelettes, par les postillons, par les éternuements, par la toux. Et les postillons, quand je parle de postillons, c'est aussi quand on parle. Et donc, ces fameux masques papier, mais aussi les masques fabrication maison, sont faits pour arrêter ces postillons. Parce que ces postillons, ces petites fines gouttelettes, sont capables de transporter des virus, comme le Covid-19, mais également les virus de la grippe. Donc rien de bien nouveau sur la barrière que peuvent représenter ces types de masques. Autrefois, ils auraient dû être plus souvent portés en raison de la grippe. Et là, maintenant, on les porte de façon beaucoup plus systématique pour éviter de transmettre le fameux Covid-19 par les postillons, les gouttelettes. Alors le masque papier dit chirurgical a un pouvoir filtrant un petit peu supérieur, il est normalisé, il est industrialisé et contrôlé. Le masque tissu, nous n'avons pas du tout la certitude pour les masques tissu fabrication maison, fabrication par des bénévoles, nous n'avons pas les mêmes certitudes en termes de qualité de filtration, donc on peut dire qu'ils ont une qualité un petit peu inférieure, mais ils permettent quand même d'arrêter un certain nombre de postillons et donc de limiter la transmission si on associe le masque tissu au mètre de distanciation physique.
Alors, comment on porte correctement un masque, qu'il soit chirurgical ou autre?
Alors, qu'il soit chirurgical, en tissu ou FFP2 pour les professionnels qui sont en charge de soins respiratoires, il y a une règle toute simple, c'est qu'un masque, ça se porte sur le nez et sur la bouche. Un masque qui n'est porté que sur la bouche, nez ou nez à l'air libre, n'a aucun intérêt. Et inversement, un masque autour du cou, un baissé autour du cou, ça ne sert à rien. un, ça veut dire qu'on ne se protège plus, on ne protège plus les autres, et deux, le masque abaissé autour du cou, c'est si jamais ce masque a déjà arrêté quelques microbes sur sa face externe, si je l'abaisse autour du cou, eh bien je peux me contaminer le col, le cou. Et deuxièmement, si je touche un masque avec mes doigts pour l'abaisser au cou et ensuite le remonter sur mon visage, nez et bouche, avec mes doigts, j'abîme la texture du masque papier, je casse les fibres papier et ce n'est plus un masque que j'ai sur le visage, c'est une passoire, même si les micro-cassures sont invisibles à l'œil nu. Ça, c'est pour le masque papier. Pour le masque tissu, même chose, il doit être porté sur le nez et sur la bouche. Ne pas être abaissé au menton, même chose, si on l'abaisse au menton, on peut, sous le menton, on peut se contaminer le col, se contaminer le cou, avec les éventuels microbes qui auraient pu être arrêtés par le masque sur sa face externe. Et deuxièmement, en touchant, en abaissant ce masque, qu'il soit papier ou tissu, je peux me souiller les mains, et après, si je me mets les mains à la bouche, sur le nez ou dans l'œil, je me frotte l'œil, je peux me contaminer. Alors je me suis protégé pendant peut-être une heure ou deux heures en ayant le masque sur le visage. Tout d'un coup, j'abaisse le masque, je me contamine les doigts, et peut-être que je peux me contaminer au coronavirus ou à d'autres microbes.
Donc c'est-à-dire à partir du moment où on a touché le masque, on se doit de le changer.
À partir du moment où on considère qu'on n'a plus besoin du masque sur le nez et sur la bouche, on doit soit, si c'est un masque tissu, le retirer et le mettre à laver, donc le mettre dans un sac plastique et le ramener chez soi pour le laver, ou si c'est un masque papier type masque chirurgical, masque de soins, une fois qu'on considère qu'on n'en a plus besoin sur le nez et sur la bouche, on le jette. Et quand on le manipule, eh bien on suit cette manipulation d'une hygiène des mains, lavage des mains à l'eau et au savon si nous ne disposons pas de solution hydroalcoolique, ou alors on se désinfecte les mains avec une solution hydroalcoolique.
Alors justement, comment on retire correctement aussi un masque pour ne pas toucher, pour ne pas se contaminer?
Ah, voilà. Donc, pour retirer le masque, c'est très simple. Si c'est un masque à élastique, avec les deux élastiques qu'on a chacun, derrière chacune des deux oreilles, eh bien, on le prend par les élastiques et on ne le prend surtout pas par la face. On a plus de risque de se contaminer les mains en le retirant si on le touche par la face. Donc, on le prend délicatement par les élastiques et hop, on le dépose soit dans le sac plastique si c'est le masque tissu, dans la poubelle, si c'est le masque chirurgical. Et malgré tout, on se fait une désinfection des mains après avoir manipulé le masque. Comme ça, si jamais on est amené à se mettre les mains au visage, se toucher le visage avec les mains, on a les mains désinfectées.
Alors, quelle est la durée d'utilisation des masques?
Alors, masque tissu, masque chirurgical, c'est maxi 4 heures.
Alors les masques de protection qu'on n'utilise pas, qu'on garde chez soi, est-ce qu'ils ont une date de péremption?
Alors les masques chirurgicaux, oui, ont des dates de péremption, mais relativement longues. À partir du moment où on ne les a pas sortis de leur emballage, qu'on ne les a pas touchés, manipulés avec les mains et les doigts, s'ils sont dans leur emballage, on peut largement aller jusqu'à la date de péremption, voire la dépasser. La péremption touche rarement le pouvoir filtrant du masque. La péremption, souvent en lien avec la fragilité des élastiques. Donc souvent, un masque qui a une date de péremption dépassée, on s'apercevra que les élastiques cassent. Mais si les élastiques tiennent et qu'on a une date de péremption qui peut être un peu dépassée, ça ne va pas entacher le pouvoir filtrant du masque.
Quand on achète un masque, comment on peut s'assurer que ces derniers sont conformes à la réglementation?
Alors, le masque chirurgical que l'on achète, il doit répondre à la norme NF EN 14683 et avoir un marquage CE.
On est en plein déconfinement, donc on porte des masques au boulot. Comment ça se passe pour des salariés qui sont dans une situation de travail où ils ne peuvent pas être éloignés? Quel masque ils peuvent choisir dans ce cas-là?
Alors, quand on est dans un bureau, par exemple, ou dans un espace de travail, en effet, il y a trois règles à respecter, ce qu'on appelle la règle des 3 M. 1, c'est de respecter au moins le mètre, c'est le premier M de distanciation physique. Deuxième règle, c'est le M de main, c'est-à-dire qu'on se fait régulièrement des hygiènes des mains. Et troisième M, c'est de porter masque, notamment quand la distanciation ne peut pas être respectée. Et on peut porter à la fois, au choix, un masque tissu qui répondrait quand même à la norme AFNOR que je vous ai citée tout à l'heure, à la S76001, ou si on a à disposition des masques chirurgicaux papier qui doivent être changés tous les 4 heures.
Alors, en dehors des masques qu'on jette, il y en a certains qu'on peut réutiliser. Alors, comment on peut les nettoyer correctement?
Alors, les seuls que l'on puisse aujourd'hui réutiliser sur le marché, selon les recommandations de cette française d'hygiène hospitalière, ce sont les fameux masques tissus, et il faut les laver. Alors moi, je vais vous donner la recommandation, celle qui est validée, c'est un lavage à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Après, toutes les autres recettes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, qu'on peut entendre ici ou là, ne sont pas validées par la Société française d'hygiène hospitalière. Donc, nous, la recommandation, c'est vraiment de les laver à 60 degrés pendant au moins 30 minutes.
On parle aussi de repasser son masque. Est-ce que c'est utile?
Alors, si le tissu qu'on soit le permet, oui, on peut le repasser avec un fer, surtout si on a un masque qui est en coton, il n'y a pas de souci pour le repasser, au contraire. Ce qui est le plus important, en plus du lavage, c'est de faire en sorte que le séchage soit relativement court. On recommande un séchage dans les 2 heures. Donc soit sèche-linge, soit des journées comme nous avons en ce moment, avec un petit peu de vent et du très beau temps, un séchage à l'air libre est tout à fait possible.
Alors comment ça se passe? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de machine à laver. Est-ce qu'on peut laver son masque à la main?
Ce n'est pas du tout validé en termes de garantie à la fois de détersion, de nettoyage et de décontamination. C'est vraiment cette température à 60 degrés pendant au moins 30 minutes qui garantit le côté décontamination du masque. Donc les lavages à la main, ce n'est pas, en tout cas, ça n'a pas fait toutes ses preuves de validité.
Alors je pense aux hommes aujourd'hui, est-ce qu'on peut porter un masque et est-ce qu'il est utile quand on a par exemple une grosse barbe?
Alors c'est en effet un peu plus compliqué, mais dans ce cas-là, si justement on fabrique des masques maison tissus, eh bien c'est au couturier ou à la couturière de faire en sorte que le masque soit le plus couvrant possible pour limiter le plus les fuites possibles. L'intérêt, c'est quand même d'arrêter les postillons en sortie donc du porteur du masque vers les autres personnes pour les protéger, mais dans l'autre sens aussi, c'est arrêter l'inhalation ou l'ingestion des postillons qui pourraient nous venir des personnes en face de nous. Alors plus le masque sera couvrant, mieux on sera protégé.
Alors en dehors des masques, on a aussi vu beaucoup de personnes avec des visières. Est-ce qu'elles peuvent remplacer le port du masque?
Alors plusieurs cas de figure. La visière ne remplacera pas le masque si la personne en face de vous ne porte pas de masque. C'est-à-dire que si vous êtes en vis-à-vis avec une autre personne, il faut au moins que l'une des deux personnes porte le masque ou que les deux portent une visière et respectent la distanciation des 1 mètre. Alors je pense à certains professionnels comme les orthophonistes. C'est quasi impossible de faire une séance d'orthophonie avec un patient, un enfant, un adulte, enfin un patient, sans que chacun puisse voir les lèvres de l'autre. Donc dans ce cas-là, les deux protagonistes doivent porter une visière et respecter au moins le mètre de distanciation. La visière, elle a un côté très intéressant pour ces personnes qui par exemple doivent lire sur les lèvres de l'autre. La visière peut venir aussi par-dessus le masque. La visière a un deuxième intérêt par-dessus le masque, c'est qu'elle protège les yeux. Parce que à ce jour, les portes d'entrée du coronavirus, les risques de contamination sont essentiellement par les muqueuses, c'est-à-dire soit la muqueuse nasopharyngée, c'est-à-dire par la bouche ou le nez, ou la muqueuse ophtalmique, c'est-à-dire par les yeux. Donc l'avantage de la visière par-dessus le masque, c'est que la visière protège aussi les yeux.
Pendant la période de déconfinement, toute l'équipe de Fréquence Sillée, comme pendant le confinement, est à votre service pour vous apporter l'information et vous faire entendre les témoignages toujours utiles sur les réalités du contexte. Une partie de notre équipe est revenue en studio, une autre demeure en téléactivité. Dans ce dernier cas, la qualité acoustique de certains entretiens peut être inférieure à l'habitude. Nous vous remercions de votre compréhension et merci à vous qui avez été extrêmement nombreux à nous écouter dans cette période et à consulter nos podcasts. Votre radio locale est là pour vous, pour le lien social.